Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Alors aujourd'hui c'est le feu. On reçoit Vlad et Solo de l'Afrique enchantée.
Ouh, par Jupiter enchanté quoi.
C'est la Belgique qui frappe à ta porte.
Yes.
C'est l'hiver qui frappe à notre porte.
Ah bah non,
c'est pas ça.
Les amis, allumons un feu.
Juliette. Mais tu comprends pas. Comme c'est l'hiver qui approche, c'est vrai, on a froid, il pleut, on n'a pas un moral de dingue.
Et puis Paris est à feu et à sang chaque samedi.
Et donc on s'est dit, c'est vrai, on va faire la fête avec Soro et Vlad et on célèbre leur bal de l'Afrique enchantée.
Voilà. On a besoin de s'ambiancer quoi.
S'enjailler.
Ça va chauffer. Ça va jazzer.
Et pas de gaou, que d'égo.
Ouais, on va gâcher.
J'y vais. Alors, ouais. Juliette, qu'est-ce que tu comprends pas dans Afrique enchantée?
Quoi? Non, mais moi aussi, je suis à fond, hein.
On va pas au bal musette, c'est pas la guinguette à Gégène.
Mais non, c'est pas le petit vin blanc sous les tonnelles, patate, là, c'est alcool de palme et de chapalo, hein.
Mais toi, la grosse patate.
Eh oh.
Guinché, je te signale que c'est un mot super à la mode en ce moment en Côte d'Ivoire, et il se trouve que c'est un mot qui arrive du 12e siècle et de la langue d'oc.
Oh, tu m'as chippé là!
Mais j'étais tellement chippé, Gaou!
C'est blague et tué ça! Hein. Et la bonne arrivée, la France Inter! Vous écoutez la start-up émission, cet endroit où là-bas, la blague vient taguer les murs de l'actualité. La colère a franchi un cap. Elle s'exprime par la violence, violence matérielle et envers les forces de l'ordre, qui parfois la rendent bien aussi. Bien que le vandalisme soit condamné, c'est un moyen d'expression. La preuve, depuis que ça pète, le français moyen est soudainement invité, au même titre que les experts, sur les plateaux de télé.
Je leur dis que quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas.
Dans l'amphithéâtre de l'université, si notre voisin est sénégalais, il paiera bientôt 16 fois plus cher que vous pour apprendre la même chose. Le premier ministre prévoit de facturer 2 770 € l'année d'études aux étrangers non européens, contre 170 € à l'étudiant luxembourgeois, par exemple.
Ces études, ça coûte vachement cher. Et encore, moi je faisais garde, j'étais un de ceux qui étudiaient le moins.
Donner un petit nom ridicule à son conjoint, cela permet de signifier le « nous deux » par rapport au reste du monde. C'est pourquoi l'appeler bibiche devant un tiers, c'est parfois un petit peu gênant.
Ça va mon coin-coin ?
Oui, merci. Et voici celle qui a poussé Alex dans l'escalier aujourd'hui. C'est sa doublure capillaire, Juliette Arnoux.
Bonjour la France Inter, bonjour Charline. Vous me le demandez pas, mais je vous le dis, on a une belle équipe. Enfin, une belle équipe sans doute, une équipe testostéronée, j'en suis sûre, puisqu'il y a que des mêmes, des mecs, et même mieux, magiques que des Thomas. D'abord Thomas Bideguin, l'homme en face. Face à qui tu voudrais dire, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Et puis comme tu es grande fille maintenant, tu dis, s'il vous plaît, raconte-moi comment on raconte une histoire.
Oh, eh bien moi, je vais vous parler justement du narrateur. Oui.
Super.
Mise en abîme.
Ouais.
Incroyable.
Juste après, Thomas Meurice, le fameux frère jumeau angélique de Guillaume Meurice. Alors Thomas Meurice, qui n'allez-vous pas embêter aujourd'hui?
J'ai embêté pas mal de monde. Je suis allé à une réunion de La République En Marche. C'est pour vous dire, je vous cache pas qu'on a causé gilet jaune. J'ai même discuté avec un député.
Ce qu'on va faire, c'est assez simple et pas simple.
Ouais. Je pense que c'est gagné du coup, mais c'est pas gagné.
Et on finira avec Thomas Croisière, qui à l'instar de son mentor Tom Cruise, cartonne dans deux domaines, le cinéma et une qualité capillaire en tout point remarquable.
Et très inspiré par vous. Et comme il paraît qu'à Paris, c'est le Far West, j'ai décidé de vous parler de Sergio Leone.
Ouais. Et voici ceux qui vont enjailler l'open space. Je vous laisse nous dire qui vous êtes, l'un après l'autre. Vous êtes...
Soro Solo et Vladimir Cagnolari.
Charline Vanunacker par Jupiter.
Vlad et Solo, bienvenue. Alors Vlad, vous étiez jeune reporter à RFI quand vous
avez... toujours un jeune reporter.
Oui, c'est vrai. Toujours à RFI en plus.
Aussi.
Mais vous avez rencontré Soro Solo à Abidjan lors d'un reportage. C'était en 2001. Soro Solo, le dieu de la radio, avec beaucoup plus que 17 millions d'auditeurs sur Radio Côte d'Ivoire, parce qu'au-delà de la Côte d'Ivoire...
C'était le Ghana, la Guinée, le Mali, le Burkina, le Libéria, et en onde moyenne, on arrivait jusqu'en Mauritanie, au Congo, c'est qu'on appelle aujourd'hui la RDC.
Ouais, je voudrais pas t'enlever du mérite quand même, mais quand t'as commencé tes émissions, il n'y avait qu'une seule radio, alors évidemment...
C'est ce que j'ai avoué à tout le monde.
Mais Soro Solo titille le pouvoir, critique les autorités, et puis il y a aussi la crise en Côte d'Ivoire qui éclate en 2002, et vous vous réfugiez à Paris, où Vlad vous accueille, vous tend les bras. Naît aussi l'Afrique enchantée, la fameuse émission dont tout le monde se souvient sur France Inter, qui a duré des années, qui nous a tellement bien ambiancé l'antenne. Musique et politique, le message aussi politique derrière la musique. Et là, il y a les derniers bals de l'Afrique enchantée qui vont se tenir.
Et ouais, parce qu'il faut savoir boucler des cycles, tourner des pages, qu'est-ce qu'on peut dire encore dans le genre. Enfin bref, en fait, on avait envie, ça fait 8 ans qu'on a lancé ce bal, un tout petit peu après le démarrage de l'émission, et c'est vraiment sa transposition scénique, sauf qu'à la place d'envoyer des disques et de les commenter, on a 12 dangereux gars et go aussi, parce qu'il y en a qui sont les mercenaires de l'ambiance, qui est l'orchestre du bal de l'Afrique enchantée, et ça a une puissance quand nous on raconte, mais que derrière c'est pas des disques et que c'est des gars qui jouent. Voilà, c'est pour ça qu'on avait lancé l'idée. Et puis on a fait un jour un premier concert au Cabaret Sauvage à Paris. On était déjà trop contents d'avoir réussi ça. Ouais. Et puis on a fait une première date de l'autre côté du périph, en Ardèche. Oh. C'était la première d'une longue tournée. Oh, ouais. Et ça nous a amené un peu partout en France, cette affaire-là. Jusqu'à la Réunion, à Montréal, enfin voilà.
Ah, et je croyais que tu allais oublier la tournée internationale, quand même.
Oui, quand même. Et puis, enfin voilà, et donc ça fait 8 ans, et plutôt que de faire une nouvelle formule, on s'est dit on va faire une très grande fête pour mettre fin à cette belle histoire, et puis on en inventera une nouvelle.
Et oui, vendredi à la Courneuve, et le 22 décembre au Cabaret Sauvage, et après peut-être une France enchantée avec une tournée africaine, on ne sait pas. Juliette Arnaud.
Donc vous avez fait un bal en Ardèche, parce qu'en Ardèche, comme dans tous les villages de France, l'été, il y a effectivement des balles, mais ça on les voit plus dans les grandes villes. À Paris, il y a pas de balles. C'est pour ça que vous avez choisi de...
On l'a pas choisi. En fait, c'est à Aubenas.
C'est à Aubenas. On était invité par l'organisateur d'un festival dans cette ville, dans cette région. Et puis on s'est dit pourquoi pas aller à l'intérieur de la France. Et justement, l'une des préoccupations de ce projet du bal de l'Afrique enchantée, c'était non seulement de transposer sur la scène vivante le principe de l'émission, mais surtout de faire revivre la culture des balles où on se cause, on se rencontre. On se drague, et puis on raconte le quotidien.
Non, ça, il nous a toujours manqué ce truc-là.
Voilà,
castagner dans le bal. Bon, tant mieux pour nous d'ailleurs, on n'avait pas d'assurance.
Parce que c'est, je ne dis pas la bagarre au hasard. Renaud, quand il parle des baloches, dans les années 70 et début des années 80.
C'est la référence de Juliette.
Guillaume, on est d'accord.
C'est vrai qu'on s'est quand même pas mal bastonné.
L'idée, c'était quand même aussi qu'au bout d'un moment, avec de la flicale, les gars sont bouchés.
Bah ouais, normalement ça finit avec les chaises. Et puis non, bah là écoute, on n'a jamais eu ce problème-là. Et j'ai même envie de dire, c'est assez curieux, mais on a remarqué une surreprésentation du public féminin au bal de l'Afrique enchantée. Bien sûr, parce que Solo, à un moment donné, montre ses pectoraux, fait des pompes. Venez, parce que ça mérite d'être vu. Non mais c'est vrai en plus.
Non, mais
et puis aussi, non mais je sais pas, parce que je pense qu'il y a une ambiance bon enfant, donc il y a des mômes, il y a des doyens aussi. Et c'est une ambiance vraiment sympa. Donc pour l'instant, on n'a jamais eu de bagarre. Donc bah, ne venez pas le 7, ne venez pas le 22, si vous avez envie de vous bastonner, c'est pas la peine.
Non, attends, Vlad, il faut que... c'est pas pour me dédouaner, c'est pas pour me justifier quand tu dis Solo, il montre ses pectoraux, il va encore dire, ah voilà, ce gars-là, cet Africain, il va faire le kéké. Non, c'est parce que j'arrive dans ce pays qu'est la France et l'Occident en général, c'est la culture du eugénisme. C'est les jeunes par-ci, les jeunes par-là. Et moi, j'arrive, je leur dis, écoutez les enfants, moi, au fait de mes 70 ans, je vais vous montrer comment on fait des pompes. Et je leur montre mon, comment on dit, la plaque de chocolat?
Ouais, la plaque de chocolat. Ventre.
Et puis, il se dit, non. Il n'a pas 70 ans, je suis. Yes!
Il n'a pas 70 ans.
Merci. Il n'a pas 70 ans, vieux père. J'imagine qu'il y a des amoureux de l'Afrique, peut-être des gens qui ont eu la chance d'y aller, qui ont vécu, etc. Vous avez aussi réussi à emmener un public qui ne connaissait peut-être pas bien l'Afrique, sa musique, qui vous ont écouté sur France Inter pendant des années et puis qui rappliquent au bal.
Ouais. Mais en règle générale, d'aucuns croiraient que ce sont les Africains qui nous écoutaient le bal de l'Afrique enchantée. Non, 99,99% de notre auditoire sur France Inter, c'était des Français. Et très souvent, des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique. Par un ami, par un voisin qui leur a donné l'indication, ils sont venus écouter, ils ont dit « Non ». Il y a des inventeurs en Afrique. Pourtant, on nous a dit ici que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Bon, bref. Donc, voilà. Il y a tous ces publics-là qui ont découvert l'émission par ricochet est venu découvrir le bal de l'Afrique enchantée. C'est souvent qu'ils sont venus avec leurs enfants et puis je pense qu'ils nous ont applaudi des quatre mains.
Et rien que ça. Et vice versa aussi parce que, en fait, non, mais souvent on allait dans des endroits où les gens connaissaient pas forcément l'émission parce qu'ils sont habitués d'une salle municipale qui programme, tiens, un bal africain, on va aller voir. Et donc il y avait souvent la moitié des gens qui connaissaient pas l'émission et qui finalement venaient à l'émission par le bal.
Ah, ouais. On va faire un bal par Jupiter, je vous le dis, moi.
Bah, ah, ben non, faites-le, franchement.
On va casser des chaises.
chanteuse.
Soro Solo, Vladimir Cagnolari sont avec nous. Eh, si on programmait une musique du bal, Soro Solo, qu'est-ce qu'on lancerait là par exemple? Je sais pas, mon cousin militaire par exemple.
Ah oui, 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 parce que.
Pourquoi c'est bien ça? C'est,
ben là, je suis pas coupable, hein, c'est Vlad le coupable. Hein, parce que c'est lui qui me disait toujours, Solo, les musiques dont tu m'avais parlé là, tu sais, c'est un peu pernicieux. Là, le gars sous la dérision, mais en fait, qui met le doigt là où ça fait mal, les problèmes de guerre en Afrique, les problèmes de misère dans le monde. Alors mettons-en une. Et c'est comme ça qu'on a deux, on est tombé sur ce Camerounais qui s'appelle Donny Elwood et qui a cette chanson, Mon cousin militaire.
C'est parti. Il est même sur la compile de L'Afrique enchantée qui est toujours disponible en 3 volumes.
Absolument disponible.
Heureusement que j'ai mon cousin militaire, oh, il serait déjà au cimetière, à 2 mètres sous terre, pauvre cadavre, simple squelette, en train de sourire comme tous les squelettes de la terre, qui n'arrête pas de sourire, le sourire de la mort, mort de misère, misère des hommes pauvres macabres. On m'appelle Monsieur Galère, on m'appelle Tonton Misère. Je vis dans un quartier populaire et nous sommes de vrais prolétaires. Insuffisance alimentaire, vestimentaire, monétaire. Nous sommes de vrais prolétaires et nous sommes majoritaires sur cette terre de misère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Quand il touche son salaire, me donne mon argent de bière et moi je fonce chez ma rombière. Toute la nuit on s'envoie en l'air. Ça c'est tout à fait prioritaire. Chez nous les prolétaires, la bière et les rombières, car on n'a rien d'autre à faire que de s'envoyer en l'air avec nos mégères, faire des héritières et des héritiers de la misère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Quand il s'en va en guerre, là-bas vers la frontière, moi je fais des prières. Moi je fais des paternosters. Une mauvaise guerre, une guerre frontalière, une guerre incendiaire, une guerre meurtrière, une guerre suicidaire. Heureusement que c'est un vaillant militaire. Quand il revient de guerre, me garde des pommes de terre, des bouts de pain rassis, de la sardine à l'huile, quelques kilos de riz, c'est de ça que je me nourris. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. J'ai pourtant fait le cours élémentaire, je sais lire, je sais compter. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Je peux même réciter le corbeau et le renard. Mais où est donc Ornicar? Je maîtrise même la grammaire. Bijoux, cailloux, je joue, palcal, carnaval. Faites quelque chose pour moi, mes frères. Je veux pas mourir dans la misère. Je veux pas finir dans la galère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire.
Oh bah, je suis le cousin militaire. Heureusement, j'ai mon cousin militaire. Il m'apporte de la sardine à l'huile. Oui, parce que, vous voyez, c'est pernicieux, voyez-vous. Quand il dit, et pourtant, je sais compter 1, 2, 3, il lit l'alphabet A, B, C, D, les conjonctions de coordination main, don, ou, don, ornica. Mm-hmm. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, dans ce bas monde où le néolibéralisme contrôle tout, quel que soit le niveau d'instruction qu'on a, après, on est au chômage. Et c'est ce qu'il veut dire, à travers ce garçon qui dit, je sais pourtant lire et écrire, et je sais compter 1, 2, 3.
Le vieux père Soro Solo avec nous.
Et
oui, c'est Donny Elwood, effectivement, mon cousin militaire. Il est venu avec Vladimir Cagnolari, c'est comme si l'Afrique
enchantée. Mon petit frère, même père, même mère.
Oui, bien sûr, non, ça se voit bien. Ils sont de retour car ce sont les derniers bals de l'Afrique enchantée, vendredi à La Courneuve et le 22 décembre au Cabaret Sauvage. Où est-ce qu'on se procure les places? On y va et puis on prend
sur
place.
Ouais, on peut les prendre sur place, mais attention parce qu'il risque d'y avoir des queues incroyables. Ah, ouais. Et alors, si vous voulez pas poireauter alors que ça chauffe à l'intérieur,
Juliette va y aller s'il y a des queues incroyables.
Sérieusement ?
Bien sûr, la bienvenue.
Ça y est.
Et donc, ça peut s'acheter dans tous les endroits, sur les sites et les endroits où on achète les billets pour tous les concerts habituellement. Hein, n'est-ce pas ?
Vlad Issoro, avec nous. Toute l'équipe est là aussi. Ouais. Autour de la table, Juliette Arnaud, qui pour accompagner nos invités ?
Eh bien, il y a le grand Thomas Bideguin, l'inénarrable Guillaume Meurice et le ridicule Thomas Croisière.
Et le rendez-vous de l'information.
Le cap, il est bon et nous allons le tenir.
Le journal de presque 17h17.
Vers l'infini et au-delà.
Et on commence avec les titres.
Oui, les gilets jaunes poursuivent leur mouvement. Christophe Castaner dit qu'il ne faut rien céder. Les taxes sont utiles.
Je vous rappelle que si on taxait la connerie, Christophe Castaner rembourserait la dette en trois quarts d'heure.
François de Rugy est arrivé en Pologne pour l'ouverture de la COP24.
Oui, je vous rappelle que si on taxait le charisme d'Andy Valotiède, François de Rugy financerait la transition écologique.
Parce qu'il y aura des brèves.
Et oui, je vous rappelle que si on taxait les brèves, Alex Vizorek serait ruiné. Et on commence avec le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, qui reçoit de plus en plus de soutien. Écoutons par exemple cet homme qui lutte contre les taxes.
On a des prélèvements obligatoires qui sont aujourd'hui insupportables. Parce que je fais comme tout le monde, parce que nous aussi nous sommes taxés.
Et vous l'avez reconnu, c'est le patoche, Patrick Balkany. Quel meilleur soutien. On peut pas dire que le mec ne milite pas concrètement depuis des années pour ne plus payer de taxes.
Pendant ce temps, une députée de La République En Marche, Élise, alors comment prononce-t-on, Fajgles,
c'est ça.
Ouais. S'est retrouvée face à deux gilets jaunes sur le plateau de CNews. On l'écoute.
Combien ? Il a combien le SMIC ?
Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas.
Mais vous vous rendez compte ?
Ouais, c'est ballot, elle savait pas le montant du SMIC. Faut lire les fiches, madame, on avait fait une fiche, là, comment parler aux pauvres. Regardez, c'est juste en dessous de quel vaccin faire avant de parler avec des gilets jaunes. Lisez les fiches.
Pendant ce temps-là, BHL annonce qu'il quitterait la France si les gilets jaunes continuent.
Ouais, suite à cette déclaration, le soutien des Français aux gilets jaunes atteint les 274%.
Ah, on passe à 275 avec Vladimir et les amis.
Là, pour le coup.
Plus dramatique, un gilet jaune a eu la main arrachée à Tours, cela pendant la manifestation de samedi.
Oui, et donc pour tout ce qui est politique de la main tendue, c'est foutu. Quoi, hein,
et pour tenter de trouver des solutions, les principaux partis politiques de France ont été reçus à Matignon.
Oui, dont Laurent Wauquiez. Vous imaginez Laurent Wauquiez à Matignon, l'émotion pour lui. On n'a pas pu revoir la moquette.
À propos de moquette, justement, l'Élysée va dépenser 300 000 euros pour la changer.
Et en plein mouvement social, c'est donc pas la honte qui les étouffe. Saint-Maclou, priez pour eux.
Environnement à présent, la COP24 a ouvert ses portes en Pologne avec toujours en vue cet objectif des 2 degrés.
Oui, alors détendez-vous Juliette, on ne parle pas de la vodka, les 2 degrés c'est le réchauffement climatique, hein, attention.
On parle prison avec les conditions de détention de Carlos Ghosn qui serait donc intolérable selon ses proches.
Mais véridique, il n'aurait droit qu'à 2 douches par semaine et interdiction de se raser.
Et oui, rajoutez-lui un djembé et vous avez un zadiste.
Allez, allez Carlos, on ne t'oublie pas et on continue. Show must go on.
Et on devrait taxer les jeux de mots.
Oui, oui, alors on enchaîne avec une découverte. Des outils en pierre taillée remontant à 2,4 millions d'années ont été découverts ailleurs qu'en Afrique de l'Est, qui pourrait donc ne pas être le seul berceau de l'humanité.
Marine Le Pen a immédiatement sabré le champagne. L'humanité ne viendrait pas d'Afrique.
Non. Hein? Parce que, attendez, ils ont été découverts en Algérie. Donc, en Afrique du Nord, en fait.
Marine Le Pen est actuellement en train de reboucher une bouteille de champagne. Hashtag ascenseur émotionnel.
Oui, zinzin toujours. Dans un livre d'entretien paru samedi, le pape François estime que dans nos sociétés, il semble que l'homosexualité soit à la mode.
Le pape, c'est le mec en robe avec des bijoux, là ?
Ouais, c'est lui, pourquoi ?
Bon, pour rien, on enchaîne.
Ok, alors on termine avec les brèves, oui, évidemment.
Ça se passe aux États-Unis, la police confond sa barbe à papa avec de la drogue, elle fait 3 mois de prison pour rien.
Oui, alors que ça fait quand même 2 ans que Thomas Bideguin revend dans les couloirs de France Inter ce qu'il appelle du caramel au beurre salé.
Et une dernière anime, une tagliatelle géante de 200 mètres de long portée par une centaine de volontaires.
Et ils battent le record de la plus grande nouille qui était jusqu'alors détenue par Édouard Philippe.
Par Jupiter, frappe à ta porte. C'est Soro Solo et Vladimir Cagnolari qui nous accompagnent jusqu'à 18h. On est heureux de les retrouver tous les deux. Et on va parler de la France qui est sous le choc devant la violence de la manifestation parisienne due à cette nébuleuse qu'on appelle les casseurs. Les gilets jaunes sont plus déterminés que jamais. Alors les violences sont condamnées de toutes parts, mais le constat c'est aussi que depuis que la colère dérape, le gouvernement est mis réellement au pied du mur et le français moyen est soudainement arrivé sur les plateaux télé avec leur gilet au milieu des experts et des éditocrates. Mmh. Eh oui, alors qu'en pense Marie Solange qui habite avenue Foch ?
Oh, la fièvre monte.
Madame, je crois
qui s'approchent de la maison et qui sont tout autour.
Du calme. Hein. Marie-Antoinette s'est trouvée dans la même situation aux Tuileries et elle n'a pas perdu son self-control,
que je sache. Oui, enfin, maman, elle a quand même fini sous la guillotine. Hein.
Un extrait de Potiche, le film de François Ozon. Si l'Arc de Triomphe a été tagué, et on le déplore, mais s'il a été tagué, c'est qu'il n'est pas respecté comme quelque chose de sacré par certaines personnes. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de les comprendre? Parce que souiller, c'est malheureusement un mode d'expression qui d'office est exclu, mais parce qu'il est violent. Mais le fait que l'Arc de Triomphe ne soit pas respecté, est-ce que ça veut dire quelque chose? Et que cette violence qu'on a vue, faut chercher à comprendre et qu'elle a peut-être changé quelque chose ce week-end. Quel regard vous avez là-dessus, vous?
Moi, je dirais, comme tu dis souvent, violente question.
Ben, je pense que quand les populations, où qu'ils soient sur cette terre des hommes, quand ils arrivent à désacraliser le sacré, ça veut dire que le chef spirituel de la société, lui-même, a commis des actes qui amènent le peuple à ne plus le considérer comme le représentant légal de sa condition.
Ouais, mais moi je suis, par exemple, pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que on détruit nos propres infrastructures. Tu vois, c'est comme quand il se passe justement les émeutes dans les banlieues, on casse tout ce qu'il y a et après on reste dans cette même merde, quoi, parce qu'on a tout cassé aussi soi-même. Et je trouve simplement que on gagnerait vraiment à entendre tout ce que les gilets jaunes ont à dire. Et il y a beaucoup de choses que je trouve légitimes, d'autres peut-être moins. Mais en tout cas, je trouve que c'est absolument pas la bonne manière. Alors bien sûr, les gars sont débordés. Sauf que du coup, ça demanderait vraiment aujourd'hui s'organiser comme une force politique. Quant à ce que tu dis sur la légitimité, moi personnellement, je trouve que utiliser des procédés antidémocratiques pour justifier une plus grande démocratisation, personnellement, je trouve que ça n'a aucun sens.
Mais est-ce que c'est antidémocratique de taguer un monument?
Non, mais le tag, en fait, finalement, ça sert, c'est rien du tout. Enfin, pour
ça,
moi,
ça s'efface, heureusement.
Et puis, pour le coup, c'est totalement anecdotique. Par contre, casser, brûler, s'en prendre à des gens, cramer une préfecture, ou bien menacer des gens physiquement. Les deux qui sont partis l'autre jour chez Édouard Philippe négocier, il y en avait un qui était sous couvert d'anonymat, et l'autre qui est parti au bout de 20 minutes et, en disant qu'après, il s'était fait menacer. Enfin, il y a un problème quelque part. Enfin, on peut pas fonctionner et demander plus de démocratie et fonctionner avec de l'intimidation ou de la casse. En tout cas, c'est mon avis.
Oui. Voilà. Justement, depuis le début de cette crise, on a pu voir sur les plateaux de télé et en radio donc des représentants et des représentantes d'ailleurs des gilets jaunes. Ceux qu'on n'entend pas du tout, mais dont on voit les méfaits sur BFM et ailleurs, ce sont les gilets jaunes, les casseurs. Ouais. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quelque chose qui manque, que pour le moment leur parole à eux? On sait que le gouvernement pense que c'est des gens de l'ultra-droite.
C'est forcément plus compliqué que ça.
Voilà. Oui. C'est forcément plus compliqué que ça. Le truc, c'est qu'on n'a pas leur parole.
L'ultra-gauche aussi, sans doute.
Oui, bien sûr.
Ultra-droite, ultra-gauche.
Et puis des gens qui sont
sans doute. Et puis peut-être aussi des gens qui ont pris un coup de chaud. Voilà. Mais le fait qu'on n'ait pas leur parole, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un élément qui manque pour avoir l'entièreté de l'équation?
Je ne sais pas. Moi, j'écoute les infos de France Inter. Je trouve que, en tout cas, à chaque fois, on les entend, alors peut-être pas en longueur, peut-être pas de quoi développer de longs argumentaires, mais on les entend, les gens qui sont dans la rue.
Ah, les gens qui sont dans la rue, ouais. Oui, ceux
tu
qui cassent.
De qui, pardon.
Ceux qui sont anonymes, qui sont cagoulés.
En général, ceux-là, ils courent pas devant les caméras et les micros.
Non, mais anonymement, il y a moyen sans doute de les dénicher pour essayer de comprendre.
Je sais pas, je trouve qu'en tout cas, quand on en vient aux mains et aux poings, c'est qu'on n'a plus envie de parler. Donc c'est un vrai problème, c'est ce que tu disais un petit peu aussi. Mais je trouve que cette parole-là, il faut peut-être aller la chercher, mais sous condition qu'elle ne s'exprime pas avec les poings. Enfin, je ne sais pas, c'est mon opinion. Hein.
Oui, c'est le message
de paix. Au Burkina Faso, on a vu des gens qui ont foutu dehors un dictateur.
Le balai citoyen.
Oui, le balai citoyen. Ouais. On les a vus. C'est des gens qui risquaient réellement leur peau, etc. Et ils étaient organisés, c'est-à-dire qu'après leur manifestation, ils balayaient en dessous. Les gars en face, ils tiraient à balles réelles. Donc on est dans des pays où le contexte n'offre pas les mêmes possibilités qu'ici, démocratiques d'expression.
C'est vrai, c'est un bel exemple de
révolution
qui s'est faite proprement.
Et donc, en tout cas, si les gilets jaunes arrivaient à mieux s'organiser, je pense pas qu'on entendrait moins leurs paroles, bien au contraire.
C'est Soro Solo et Vladimir Cagnolari qui sont avec nous, qui essayent de réenchanter le quotidien, qui est un peu morose en ce moment. Et lui aussi, il réenchante, il est revenu, c'est Thomas Bideguin.
Là, il réenchante, ah, oui. C'est ce qu'on va voir. Parce qu'une fois de plus, c'est à moi et je reviens vous servir la soupe. docilement, un peu comme les Black Blocs la servent au gouvernement et à BFM, en confortant les uns dans leur certitude que le bas-peuple n'a rien à faire dans les beaux quartiers, et en assurant aux autres de belles images à diffuser en boucle. Ah, c'est quand même bien quand le monde tourne rond comme ça, c'est agréable. Et puis je retrouve vos beaux sourires, un peu crispés, on dirait les membres du G20 quand MBS arrive dans la salle, en sifflotant. Alors, une fois de plus, je viens vous parler de storytelling. C'est ce que je fais ici. Je parle de tous ces petits éléments de mobilier urbain, de récits, qui savamment empilés avec une voiture qui brûle en dessous et les restes de la vitrine optique 2000 par-dessus forment la fière barricade des grands récits. Et la figure du jour dans le monde du storytelling, c'est le narrateur. C'est la place la plus convoitée, celle du narrateur. Tout le monde veut tenir le crachoir. Tout le monde veut être celui qui raconte l'histoire. C'est comme ça. On est prêt à toutes les bassesses pour devenir narrateur. Sans doute parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, comme affirmé ironiquement Brasillac. Ironique, il maniait lui-même comme une arme à double tranchant, puisque quelques semaines après avoir écrit ces lignes, il était fusillé à la Libération. En tout cas, dans le monde du storytelling, c'est la règle. C'est celui qui raconte l'histoire qui gagne. Les romanciers ont eu ce pouvoir-là à un moment, on se souvient de Balzac ou d'Hugo, et les journalistes aussi à un moment ont eu ce pouvoir, Roger Giquel qui nous racontait le monde, des publicitaires aussi l'ont eu, on se souvient des années Séguéla. Voilà, on commence avec Balzac, on finit avec Séguéla, on dirait une biographie de Jean d'Ormesson. Mais même certains hommes politiques ont joué ce rôle de narrateur, on se souvient d'Emmanuel Macron. Si, souvenez-vous, Emmanuel Macron, vous vous souvenez quand on vous voyait. Mais si, souvenez-vous, pendant l'élection présidentielle, c'était lui qui racontait l'histoire. Le nouveau monde, la fin des partis politiques, l'homme seul face à son destin. C'était pas Fillon qui racontait l'histoire. Lui, c'est le canard enchaîné qui racontait la sienne. Le Pen et Mélenchon, ils ont essayé aussi avec des récits différents, mais c'est Macron qui, au final, a réussi à s'imposer comme narrateur. Il nous racontait la France. C'est ça qu'il faisait. Il nous racontait la France, qu'elle allait devenir. Il nous racontait ses vacances. Il nous racontait ses lectures, ses goûts littéraires et la planète qu'il allait sauver. Et puis tout d'un coup, sa place de narrateur, il l'a perdue. C'est plus lui, et ni lui, ni son armée de petits vendeurs de photocopieurs qui racontent l'histoire. C'est plus ça. D'ailleurs, dès qu'ils apparaissent, maintenant, ils disent qu'ils entendent. Ils disent qu'ils écoutent. Et c'est bien la preuve qu'ils ont changé de position. Ils sont passés de narrateur à spectateur. Et c'est donc plus eux qui tiennent le crachoir. Alors, du coup, ils pourraient faire ce qu'ils veulent. Ils pourraient baisser le prix du diesel, distribuer de nouvelles subventions pour payer de nouvelles taxes, mais rien n'y fera tant qu'ils n'auront pas inventé une nouvelle histoire dont ils seront les narrateurs. Pour l'instant, c'est comme ça. Et comme c'est plus eux qui racontent l'histoire, on peut se demander qui la raconte. Bon, pas les journalistes en tout cas, qui ont réussi à se faire unanimement détester. Quand c'est pas les gilets jaunes qui les insultent, c'est la police qui leur tire dessus ou les casseurs qui leur filent des coups de latte. Ils continuent à longueur d'éditoriaux à s'en lamenter, sans jamais vraiment se demander pourquoi. Mais alors, qui alors? Donc, pas les contestataires non plus, qui ont visiblement toutes les peines à structurer leur récit. Et on se retrouve dans une période curieuse où la place du narrateur est vacante. Tocqueville disait « Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'homme avance dans les ténèbres ». Ça qualifie assez bien le moment. Et ça me rappelle aussi mon premier mariage. Mais donc, quand on se souvient qu'il y a 18 mois, Macron marchait comme un culbuto devant la pyramide du Louvre pour y prendre la parole, et qu'aujourd'hui, les émeutiers pillent les machines à sous de l'Arc de Triomphe, notre monument national transformé en usine à touristes, eh bien, on se dit qu'en tout cas, en ces temps d'incertitude, les Champs-Élysées nous offrent une fois de plus la plus belle perspective du monde.
Thomas Bidguin. Bam, 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 ça se pose là.
Bam, bom, bé.
Ouais, Thomas Bidguin, qu'on peut réécouter sur franceinter.fr.
Pour comprendre.
Non, pour se délecter à nouveau de cette magnifique chronique, de ce storytelling. Allez, vous êtes dans Par Jupiter. Son album posthume, c'est une boîte à bijoux. On en saura, on le fait briller, c'est Immortel, Alain Bashung.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, immortel. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Immortel au moins jusqu'à 18h pour Par Jupiter, avec Soro Solo et Vladimir Cagnolari, car les derniers bals de l'Afrique enchantée, c'est vendredi à la Courneuve et le 22 décembre au Cabaret Sauvage. Et Soro Solo, tonton, on vous retrouve ce soir chez Laurent Goumard. Vous tenez une chronique?
Oui, tout à fait.
Et oui, évidemment. Et aussi le samedi dans Babel sur scène avec Julia Foyce à 21h50 le samedi.
Ça, c'est pour raconter de l'Afrique qui est en marche.
Exact. Mais l'Afrique aussi est en marche. Justement, on y vient avec Guillaume Meurice avant Thomas Croisière.
Ouais, bah oui, on va encore parler des gilets jaunes parce qu'on a enfin quelques prises de position concrètes du gouvernement qui a dit, je le cite, on ne changera pas de direction. Alors attention quand même, parce que la dernière personne qui a dit ça, c'est Ayrton Senna. Hein, faites gaffe, hein, on sait comment ça finit. Alors les macronistes, ils se planquent un petit peu, mais ils avaient organisé une réunion publique hier à Paris, et ça c'est quand même très chouette, mais ils m'avaient pas invité. Ah, ça c'est quand même moins chouette, je dirais, c'est moins sympa. Mais ça arrive, je me vexe pas. Moi-même, quand j'organise une soirée, je me dis pas immédiatement, tiens, je vais inviter Amélie de Montchalin. Hein, ça vient pas tout de suite, sauf si la thématique de la fête c'est taux dérogatoire et dépression nerveuse, mais sinon non. Alors bon, j'y suis allé quand même, hein, parce qu'un dimanche soir, quoi de mieux qu'aller discuter avec des macronistes, hein, pas grand chose finalement. Une soirée tagine avec Nicolas Dupont-Aignan peut-être, à la limite une soirée Robert Ménard chez Soro Solo, bon, alors peut-être. Alors j'y suis allé, moi j'ai le sens du sacrifice et du service public, et j'ai rencontré plein de gens intéressants qui disent qu'il faut maintenir le cap.
Le cap tel qu'on le ressent, je pense qu'il est, que ce soit pour des transformations profondes de nos systèmes qui pilotent notre économie.
Mais est-ce qu'on maintient le cap? C'est pas les dernières phrases du capitaine du Costa Concordia?
C'était pas ceux du Titanic.
Ah, c'est vrai, parce que le capitaine du Titanic, il a changé de cap, mais un peu tard. Donc je sais pas si la comparaison est heureuse. Sinon, on va se retrouver avec un film dans quelques années avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de Macron, Steven Seagal pour jouer Castaner, Darry Cole pour jouer Le Drian. Oui, je sais qu'il y en a un des deux qui est mort, mais je sais plus lequel. Bref, les gilets jaunes, c'est aussi la France des campagnes contre la France des villes. Écoutons la France des villes.
De toute façon, il faut quand même comprendre qu'on ne peut pas habiter dans un univers extraordinaire avec la pelouse, les montagnes, une vue pas possible et avoir un hôpital en bas de chez soi, une pharmacie à côté, ça c'est pas possible.
Et pourquoi pas?
Parce que ça c'est pas possible. On peut pas être à la campagne et à la ville. Nous, on vit dans une ville super polluée, mais oui, on a les hôpitaux. C'est très con, hein.
Non, c'est brillant. C'est brillant, c'est brillant, parce que si tu te fais une fracture ouverte à la campagne, eh ben, tu peux te vider de ton sang devant un beau paysage. C'est quand même très sympa. Hein, donc, c'est pour ça qu'on ferme les hôpitaux publics à la campagne. On peut pas tout avoir non plus. Alors, comme on a affaire à une femme de conviction, ben, j'ai continué avec elle.
Il y a quand même 55% des gens qui ne payent pas d'impôts. Alors, ils me disent, les gilets jaunes qui sont dans la rue parce que, pauvre chérie, ils payent trop d'impôts. Je veux juste savoir où, hein. D'accord ? Parce que tous ceux qui sont au SMIC, ils payent pas d'impôts, hein, ils payent pas d'IRPP. Derrière...
Bah, c'est parce que déjà, peut-être ils ont pas les moyens, non ?
Mais oui.
Bah, oui, mais c'est bien ça, hein, c'est le problème, c'est les pauvres, sous prétexte qu'ils ont pas de revenus, ils payent pas l'impôt sur le revenu. Ça, ils sont pas gênés, ceux-là. On dirait des cul-de-jatte qui boycottent les magasins de chaussures. Non mais on va où ? C'est ça la France aujourd'hui ? Attendez, c'est ça qu'ils veulent pas piger, les gilets jaunes, c'est pour ça qu'ils font la révolution. D'ailleurs, à ce propos, j'avais une autre question pour une autre militante, La République En Marche.
Il avait écrit un livre qui s'appelle Révolution, Macron. Finalement, c'est bon, il a réussi.
La révolution, il l'a faite avant. Eh oui, il a quand même révolutionné. Hein.
Il a révolutionné, alors là, ça serait une contre-révolution.
Ça serait peut-être une contre-révolution.
De révolutionnaire, quand même.
De révolutionnaire. Le contre-compte, peut-être qu'on arriverait à quelque chose de positif.
Ah, ça non plus, c'est pas con. Hein, si on contre-révolutionne la révolution, ça s'annule. Vous voyez ? Vous voyez ou pas ? Pour l'instant, vous voyez pas, parce que vous avez des lacrymos et des tirs de flashball dans la gueule. Mais quand ça aura cicatrisé, vous allez bien voir. D'ailleurs, une contre-contre-révolution des marcheurs est en route. Hein.
Je pense qu'il y a un moment, il faut montrer concrètement aussi qu'on peut être dans la rue et montrer notre attachement à certaines valeurs.
Une marche de marcheurs ?
Exactement.
Mais alors, vous n'avez pas peur d'être seulement 15 ou 18 ?
Ben, il faut prendre le risque. Il y a un moment, il ne faut pas être intimidé par des gilets jaunes.
Eh ben allez, on vous regarde, les gars. L'histoire vous regarde. Organisez un rassemblement de soutien à Macron. Alors, prenez peut-être pas les Champs-Élysées quand même, hein, c'est pas la peine. Une petite ruelle, ça ira. Faites du covoiturage, allez-y en smart. Allez-y aussi avec les deux députés qui osent encore sortir, parce que c'est pas brillant en ce moment. D'ailleurs, à cette réunion publique, il y avait un député La République En Marche, c'est Sylvain Maillard. Et lui, on l'aime bien parce que c'est lui qui avait dit qu'il y avait que 50 SDF qui dormaient dans les rues de Paris. Donc, il est bien connecté au réel, façon réelle à lui, quoi, le oui-oui et la Startup Nation. Alors, Sylvain, il maintient que supprimer l'ISF était une bonne chose.
On tente de nouvelles façons de financer les entreprises et c'est ce qu'on a décidé sur l'ISF.
Mais pourquoi vous taxez pas davantage les riches pour redistribuer plus la richesse, quoi ?
C'est ce qu'on fait depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a moins de pauvres ?
Est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait ?
Mais bien sûr.
Ah ben ça, parce que ça, on n'était pas au courant, nous, par exemple. Ah ben non, mais prévenez les gars, parce que nous, on sait pas. Hein, on sait pas que Macron, c'est le sous-commandant Marcos. Hein, pour nous, il est toujours stagiaire d'observation à Rothschild ou Dame Pipi chez Goldman Sachs. Donc bossez vraiment la com à ce niveau-là. Alors terminons sur ce qui est important, toujours avec Sylvain Maillard.
Et ce qui est important, c'est qu'on puisse aussi flécher une partie de ceux qui ont le plus d'argent. Et vous verrez, on vous montrera des résultats comme quoi ça marche très bien.
Dans combien de temps ?
C'est mes collègues Amélie de Montchalin et tout le groupe autour d'elle qui va dans les... D'abord a sorti plusieurs slides qui expliquent bien déjà ce qui a été fléché. Vous allez voir que ça va s'accélérer dans les mois qui viennent.
Mais on a slide fléché. Non. Ça, c'est Startup Nation.
Allez, vous m'avez compris. On y va ?
Allez, on y va. Hein, c'est plus power to the people, mais PowerPoint to the people. Alors avant d'aller dans le mur, Macron, il ferait mieux de faire comme aurait dû faire Ayrton Senna, un bon virage à gauche.
Guillaume Meurice, merci. Sur France Inter, avec Solo et Vlad qui nous accompagnent de l'Afrique Enchantée. Vladimir, on peut toujours vous entendre sur RFI ?
Ah bah oui, mais je fais régulièrement des reportages pour RFI. En général, c'est RFI qui me permet de partir en Afrique. Parce que comme c'est une radio qui est énormément écoutée là-bas, parce que la francophonie, hein, on veut ou on veut pas, mais c'est en Afrique que ça se passe.
On va y venir.
Et ben du coup, la RFI parle beaucoup d'Afrique et j'étais aux Comores il y a pas très longtemps, justement, pas avec les mercenaires de l'ambiance, mais avec juste un micro pour faire un petit reportage là-bas. Voilà.
Allez, on va passer au deuxième slide de cette émission avec Juliette Arnaud qui nous accompagne et à venir Thomas Croisière. C'est fini la quasi-gratuité des études supérieures pour les étrangers. L'étranger non européen devra payer 16 fois plus cher que son voisin européen dans l'amphi. La diversité culturelle est balayée au profit de l'uniformité financière. Oui, j'ai mis la réponse dans le lancement. Et alors ? Ce qui oblige les étudiants étrangers à descendre dans les rues de France pour manifester.
Mais ça me dit,
si vous avez pas vos papiers, manifestez pas trop quand même. On est là. Oui, seulement ils ont manifesté samedi, ouais, c'est vrai, donc forcément c'est passé à l'as, hein, on est d'accord. Donc raison de plus pour en parler, allez, c'est parti.
Salut Renaud. Alors ça va, la famille, tout ça, bien.
Bon, pardon, je suis confus, mais il y a méprise. Mon père est ambassadeur du Gabon à Paris.
Mais ça, c'est pas grave, on peut quand même être copains tous les deux.
Tu plaisantes. Je peux pas être copain avec un type qui porte des mocassins à gland. Enfin, voyons...
Neuilly sa mère, le film de Gabriel Julien Laferrière. Juliette Arnaud, allons-y, attaquons ce sujet.
Alors comment vous interprétez cette décision, tous les deux, hein ?
J'ai l'impression que ça me renvoie à mon propre pays, la Côte d'Ivoire. Dans les années 80, quand la Banque mondiale et le FMI ont imposé aux Africains les plans d'ajustement structurel et que les prix des matières premières avaient chuté de façon vertigineuse, bien entendu, les caisses de l'État étaient vides. Hein. Et les régimes des Africains, notamment de la Côte d'Ivoire, disaient « Tiens, comment on va faire ?» Allez, tous les étrangers, la carte de résidence, le prix a été multiplié par 10. Mmh. Oui. C'est ce que j'ai dit.
L'étranger est une ressource. En fait,
l'étranger a toujours été une ressource, quelle que soit la partie du monde où on se retrouve. Et de revivre ça ici, j'ai dit, pourtant quand j'étais chez moi, on me disait, non, vos conneries d'Africains, on ne fait jamais ça dans les républiques démocratiques comme les nôtres. Et je retrouve les mêmes corrompus ici.
Parce que, d'après l'agence Campus France, ça coûte 3 milliards, mais ça en rapporte 4,65 milliards, donc c'est...
Actuellement, en fait, l'accueil des étudiants étrangers. Et puis, il y a un truc qui est complètement paradoxal quand même, c'est-à-dire que ça fait un certain nombre d'années que les Français disent, oui, mais maintenant, les intelligences, notamment d'Afrique, les étudiants partent au Canada, aux États-Unis, où visiblement ils sont mieux accueillis. Et donc, s'est posé la question il y a quelques années, je crois que c'était à l'époque de Sarkozy, comment on va faire pour les réattirer? Parce qu'en fait, on sait que ça crée des ponts ensuite avec ceux qui travailleront en Afrique demain, et que c'est comme ça, en général, qu'on fait du business. Et du coup, là, on multiplie par 16 les tarifs, sachant qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens, je lisais quelque chose là-dessus, là, il y a beaucoup de Sénégalais qui viennent en France, mais ils ont toujours un cousin, une cousine. Donc s'ils ont leur visa d'étudiant, pour peu qu'on leur donne...
Pour l'hébergement.
Ben oui, donc déjà, ils ont une partie. Ils peuvent à peu près réussir à financer, même s'ils partent d'un niveau social et économique beaucoup moins élevé. Donc on va décider qu'on va prendre qui, justement, les fils d'ambassadeurs. Comment on va financer ça?
Ou les Chinois et les Russes qui sont attirés par le fait que le ticket d'entrée soit cher.
Oui, mais est-ce que les Chinois et les Russes vont vraiment venir faire des études en France?
Bah ça, vu ce qui se passe en ce moment, j'ai pas l'impression qu'ils vont venir en masse.
Soyons sérieux.
Thomas Bidguin.
Non, mais on imagine la réunion où les gars disent, les Français sont trop taxés, ils en peuvent plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à taxer les étrangers. On est bien cons. Et voilà. Ça donne ce genre d'idée.
Voilà, donc c'est une proposition d'Edouard Philippe, le 19 novembre, dans une stratégie d'attractivité pour les étudiants internationaux, mais donc qui va pénaliser les Sénégalais. D'ailleurs, dans les Sénégalais, les Maghrébins, il y a une pleine page dans Le Monde datée d'aujourd'hui, avec notamment un reportage à Dakar qui explique qu'il y a notamment un étudiant qui dit ma maman elle est femme de ménage à Hambourg, et donc c'est avec cet argent-là qu'il parvient à qu'il espérait pouvoir aller faire ses études, mais au lieu de 170 euros ça va être 2 770 euros, donc maman à Hambourg, elle n'aura pas les moyens de toute façon d'envoyer le fiston en France. Voilà pour ce sujet où les étudiants étrangers et les étudiants en général dans beaucoup d'universités se mobilisent et sont très peu entendus en ce moment parce que il se passe d'autres choses. Mais on garde un œil là-dessus, évidemment.
Je pense qu'il devrait faire convergence des luttes avec les femmes.
Et par exemple, qui n'ont pas été très entendues. Non et plus. Tous et ceux qui manifestent le samedi en général.
Oui, hein. Et les homosexuels samedi dernier.
Parce qu'on rappelle que la révolution, c'est le samedi. Hein. Voilà. Après, on se repose et puis on repart le samedi. Lui a réussi à traverser Paris, à enjamber les barricades. Il est venu jusqu'à nous. Thomas Croisière.
Par Jupiter présente. Cinéma de Thomas Croisière.
Quel est son jingle?
Bonjour Charline. Savez-vous pourquoi Soro Solo va rarement au cinéma?
Non Thomas.
Parce qu'il voit rien. Existait-il une meilleure façon d'entamer ma chronique cinéma? Sans doute. Ce week-end, plutôt qu'un gilet jaune, j'ai enfilé mon cache-poussière et emmené mes enfants à la Cinémathèque pour visiter la formidable exposition « Il était une fois Sergio Leone ». Ce réalisateur italien, père du western spaghetti, autrefois critiqué, aujourd'hui célébré et toujours imité. Quiconque a appuyé sur le bouton « record » d'un caméscope s'est essayé à tourner des plans à la Sergio Leone. Ces gros plans pleins d'emphase qui permettent de repérer les comédons des comédiens. Sans Leone, pas de Scorsese, Eastwood ni De Palma. Sans Leone, Tarantino serait encore vendeur dans un vidéoclub ou peut-être dans un magasin de smartphones puisqu'il n'y a plus de vidéoclub. Voilà pourquoi je vous propose un top 4 des films de Sergio Leone à partager avec vos enfants parce que bon, La Reine des Neiges, ça va bien 2 minutes. Numéro 4.
Dis pas, comment il a fait le monsieur? J'ai entendu qu'un seul coup de feu.
Question de vitesse, mon petit.
Dis pas, tu crois qu'il y a au monde quelqu'un de plus rapide que lui?
Plus rapide que lui? Personne.
Mon nom est personne. film réalisé par Tonino Valéry, mais écrit, produit et un peu réalisé par Léon. Personne est un quasi-toon, sale gosse insolent et joueur qui fait hurler de rire les enfants quand il pêche à la mouche, donne des baffes ou tire plus vite que son ombre. Personne, c'est aussi la rencontre de quatre des plus beaux yeux bleus du cinéma, Terence Hill et Henry Fonda. Mais encore, une réflexion sur la filiation, la transmission et la fin des légendes de l'Ouest. Et c'est surtout une morale. Ceux qui te mettent dans la merde ne le font pas toujours pour ton malheur. Et ceux qui t'en sortent ne le font pas toujours pour ton bonheur. Mais surtout, quand tu es dans la merde, tais-toi. Numéro 3.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Le bon, la brute et le truand durent 2h40 et je pourrais vous en parler 3 jours. En pleine guerre de sécession, Blondin, Tuco et Sentenza se lancent à la recherche de l'or des confédérés. Tragédie comique où l'on retrouve un arlequin, une fripouille et un méchant, Léon dénonce la complexité de l'âme humaine, le bon n'étant pas si bon que ça, la brute capable de grandeur d'âme, tout en sachant qu'au fond, nous sommes tous des truands. Il montre aussi la réalité absurde de la guerre où l'on meurt par milliers pour un pont qui n'est qu'une crotte de mouche sur une carte. Après 2 heures de pur bonheur sur fond de chasse au trésor, le film se conclut par un orgasme dont les trompettes font trembler les murs de Jéricho, le duel à 3, ce que dans le bâtiment on appelle un truel. Au milieu du cimetière de Sad Hill, gigantesque amphithéâtre grec magnifié par la musique truculente d'Ennio Morricone. Et c'est bien par amour pour Léon qu'hier je n'ai rien dit lorsqu'après le déjeuner mon fils m'a dit « Tu vois papa ?» Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui rangent le lave-vaisselle et ceux qui jouent à la Switch. Alors toi, tu ranges. Numéro 2.
La prime pour la capture de cet homme est de 5 000 $. Un certain Judas a trouvé que 30 $, c'était tout à fait suffisant. Il n'y avait pas de dollars à cette époque-là. Mais des fils de pute, ça, il y en avait.
Jason Robards et Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Film qui dure 2h55 et dont je pourrais vous parler une semaine. Des 10 premières minutes d'attente dans une gare sans parole, mais avec le son d'une éolienne rouillée, d'une mouche et d'une goutte d'eau jusqu'au dernier travelling où sur fond d'envolée lyrique morriconienne, la sublime Claudia Cardinal, qui tient le rôle principal du film, c'est suffisamment rare pour une femme dans un western pour être soulignée, donne de l'eau aux ouvriers du chemin de fer qui s'affairent à relier l'Atlantique et le Pacifique, il n'y a rien à jeter. Si ce n'est peut-être, attention spoiler, la mort de Cheyenne dont le romantisme n'a plus sa place dans une société devenue trop mercantile, la fin de l'Ouest américain. Depuis qu'ils l'ont vu, mes enfants m'interdisent les bretelles, car comme le dit Henry Fonda dans le film, je n'ai aucune confiance en quelqu'un qui porte à la fois une ceinture et des bretelles, en quelqu'un qui doute de son pantalon. Numéro 1. Il était une fois en Amérique. Sergio Leone est le seul réalisateur à pouvoir me faire supporter de la flûte de Pan et un film de 4 heures dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui car vos enfants, s'ils ont moins de 15 ans, sont bien trop jeunes pour que vous leur montriez. Ma mère, qui ne comprend jamais rien à ce que je fais, me demande souvent quel est mon projet de vie. Eh bien, c'est de vivre suffisamment vieux pour passer un jour 4 heures avec mes deux fils, Max, Noodles et les mômes du ghetto juif de New York devant le plus grand film de tous les temps. Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Gigantesque fresque sur l'amitié, l'amour et le temps qui est mort ou qui reviendra, pour citer Renaud qui a eu de la chance de ne pas naître en pleine prohibition. L'œuvre de Sergio Leone est profondément nostalgique, d'où son recours fréquent aux flashbacks et a toujours pour toile de fond la fin d'une époque. J'aurais été curieux de son regard sur la nôtre, alors qu'on nous promet au pire la fin du monde, au mieux la fin de la civilisation et au milieu la fin de l'humanité. Une chose est sûre, quel que soit le scénario, il y aura toujours des bons, des brutes et des truands. Dernier pied de nez du réalisateur, Sergio Leone est mort en 1989 d'une crise cardiaque après avoir regardé le film de Robert Wise, « Je veux vivre ». Et c'est ça sans doute la meilleure vanne de ma chronique.
Merci Thomas Croisière, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Sergio Leone, expliquez-vous.
J'ai fait ça pour quelques dollars de plus.
On est toujours avec Solo et Vlad de l'Afrique Enchantée pour les derniers bals. Et on jouerait ensemble.
Mais évidemment, c'est le moment du sketch, puisque vous connaissez l'émission par cœur, puisque vous écoutez tout le temps. Pardon, hop là. Alors on a imaginé, évidemment, finir sur les gilets jaunes, on a imaginé une réunion entre Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Christophe Castaner, qui aurait fait appel à un dictateur africain. Tiens, qui pourrait jouer le dictateur africain?
Ah, il a besoin de ses conseils.
Allez, ouais. on y va.
Écoute.
C'est parti.
Alors Emmanuel, mais tu dis rien là.
Je n'accepterai jamais la violence.
Ne dis pas de bêtises, mon ami.
Un gilet jaune, au secours, faites quelque chose, Castaner.
Ce n'est pas un gilet jaune, c'est une tunique bariolée.
C'est ma tenue traditionnelle des dictateurs africains, s'il vous plaît.
C'est très joli. Est-ce qu'ils font la même chez Zadig et Voltaire?
Donc, que puis-je faire pour vous, monsieur?
Ah, c'est lui qui pourrait faire beaucoup pour vous.
Je sais comment mater le peuple.
Je ne changerai pas de cap.
C'est pourquoi il faut faire un geste fort.
Je sais, l'état d'urgence.
Non, il faut que M. Macron s'autoproclame guide suprême, oh, éternel.
Oh, oh oui, je t'aime, mon Manu.
Oui, calme-toi, Castaner, hein, c'est la femme de Manu, c'est moi.
Hein. Mais vous pensez que ça mettrait un terme à la crise?
Si ça ne suffit pas, il faut que vous érigiez en mode de gouvernance le mensonge, la manipulation et l'intimidation.
Pardon, mais je ne crois pas vous avoir attendu pour ça. Enfin, je faisais déjà, en fait.
Emmanuel a beaucoup de talent.
Et vous avez pensé à jouer sur les rivalités tribales?
Entre la France Insoumise et le Rassemblement National, par exemple?
Non, entre les gilets jaunes citron et les gilets jaunes libres.
Oh, toute cette teinture de jaune, c'est formidable, on se croirait chez Gucci. Hein.
Oui, ou un défilé de mode sur les Champs-Elysées.
Je serais vous, Castaner, je ramènerais pas trop ma fraise avec les Champs-Elysées, quand même.
Monsieur Macron, cette fois-ci, il faut que vous entendiez le peuple.
En reculant?
Non, en prenant exemple sur Bokassa, Mobutu, Mugabe.
Mais comment faire?
Envoyez les chars.
Au nom de la République en marche?
Non, ce sera la répression en marche.
Quel coup de génie!
Ça me donnerait presque envie de taguer l'Arc de Triomphe, là, comme ça.
À votre service, au grand libérateur de la nation.
Ouais, et pardon, je m'habille comment pour samedi prochain, alors? Merci, Solo et Vlad. Merci beaucoup. C'était bon de vous réentendre ensemble. On aura encore l'occasion, vous croyez?
Écoute,
Il y a Vladimir Cagnolari toujours sur RFI. Et il y a Soro Solo toujours sur France Inter. On peut vous écouter ce soir, par exemple, chez Laurent Goumard, n'est-ce pas?
Oui, ce sera pour la chronique musicale.
Et puis, il y a les derniers bals de l'Afrique Enchantée.
Voilà.
Vendredi à la Courneuve.
Tu l'as dit.
Et le 22 décembre au Cabaret Sauvage.
Merci.
Et vous êtes tous convoqués, vous monsieur avec votre joli chapeau, vous avec votre narrateur, toi avec tes chaises, et puis vous deux évidemment, toi avec ton mauvais esprit surtout.
Tu as précisé que c'était pas une information, c'est un ordre,
une convocation.
Hey, on a bien compris. Merci les amis. Merci.
Salut.
Allez, on va se retrouver demain avec l'actrice Élodie Boucher. Et voici le mot de la fin à celle qui reste un modèle de comédie, d'humour et d'humanité. On t'aime, Maria Pacoum.
J'aime tellement la vie, d'ailleurs ça m'embête qu'il va falloir la quitter, bien sûr. Comme en plus je suis complètement athée, croyant en rien du tout, c'est fini, après fini complètement. Et ça, je trouve ça dommage, car vraiment, s'il y a une chose que j'aime, c'est la vie.